Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
Bonjour, je m'appelle Philippe Corbet, je suis le chef du service politique de BFM TV. Nous venons d'enregistrer un nouvel épisode du service politique avec Perrine Vasque, qui suit notamment la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Et nous nous sommes posé cette question, est-ce que Jean-Luc Mélenchon est en route pour le second tour? Il y a plusieurs études d'opinion ces derniers jours qui montrent que Jean-Luc Mélenchon est désormais à la troisième place et plus très loin de la seconde place, en tout cas dans la marge d'erreur qui lui laisse espérer d'arriver au second tour dans les prochaines semaines de campagne. Donc on parle de ça avec Perrine Vasque. Nous sommes le jeudi 10 mars et nous sommes donc à 45 jours du second tour de la présidentielle, 45 jours du choix des Français. Bonjour Perrine.
Salut Philippe.
Alors, on avait déjà enregistré un épisode hier pour parler de Yannick Jadot, Sandrine Rousseau. Le son était assez mauvais parce que moi, je parlais avec mon masque et toi, tu étais dans la rue avec du bruit, des enfants, une sortie d'école, des voitures, tout ça. Là, on est dans la même pièce, donc c'est plus simple. Nous sommes au bureau. C'est rare parce qu'on a aussi enregistré un épisode précédent sur Jean-Luc Mélenchon. Le soir, au clair de lune, au milieu de la nuit,
dans les Alpes de Haute-Provence.
Voilà, on a beaucoup parlé puisque nous avions... c'était une fin de soirée, nous étions un peu fatigués. Donc je vous invite à réécouter cet épisode. Et en fait, cet épisode, c'était le 18 février, dans la nuit du 18 au 19 février, je crois, ou en tout cas le 18 février. Et on avait intitulé cet épisode « Jean-Luc Mélenchon peut-il être au second tour ?» Et la question est d'autant plus d'actualité aujourd'hui, puisque nous avons... deux sondages où Jean-Luc Mélenchon est troisième, et notamment un sondage ELA pour BFM TV qui a été publié il y a quelques heures, où Jean-Luc Mélenchon se trouve à la troisième place, dans la marge d'erreur avec Marine Le Pen. Je vais reprendre ce chiffre pour ne pas dire de bêtises, parce que quand même ce sondage est assez spectaculaire. Je reprends. Donc selon ce sondage ELA pour BFM TV, Emmanuel Macron est à 33,5, avec un bond de 8,5 en une semaine. Marine Le Pen à 15, elle perd 2 points en une semaine. Jean-Luc Mélenchon à 13. Éric Zemmour à 11, il perd 3 points en une semaine. Et Valérie Pécresse à 10,5, elle perd 1,5 en une semaine. Évidemment, un sondage, ça n'est qu'une photographie, ça n'est pas forcément prédictif. Évidemment, tout ça, il y a un effet drapeau du président qui va peut-être se tasser. Donc il faut rester prudent sur ces chiffres. Néanmoins, dans ce sondage, et d'autres sondages semblent confirmer cela, Jean-Luc Mélenchon est peut-être bien aujourd'hui en troisième. Et avec la marge d'erreur, possiblement pas très loin du second tour, pas très loin d'une qualification pour le second tour, pas très loin de la deuxième qui est Marine Le Pen.
Comme il l'a dit tout à l'heure, tu sais...
Parce que tu l'as vu tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon.
Oui, il a fait une conférence de presse. Et il a depuis plusieurs semaines cette image de dire que lui, c'est une tortue sagace parce qu'il est parti très très tôt en campagne et que le second tour, pour lui, était un trou de souris par lequel il avait une chance de passer. Et tout à l'heure, quand on lui a posé la question, il nous a dit, disons que le trou de souris est en train de s'agrandir un peu pour que le passage de la tortue soit plus agréable.
Oui, parce que c'est pas facile de faire passer une tortue, même sagace, par un trou de souris.
Là, il s'agrandit.
Mais comment il voit ça? Comment est-ce qu'il regarde cette situation un peu atypique où, compte tenu de la situation de campagne, compte tenu de la situation internationale, il est en position aujourd'hui, en troisième position, en position de pouvoir penser éventuellement au second tour?
En fait, lui, ce qu'il dit, et il le dit depuis le début de la guerre en Ukraine, que pour lui, c'est pas forcément une mauvaise séquence, en fait. Il dit, enfin, il l'a redit tout à l'heure, dans cette campagne, on va parler de sujets sérieux. C'est-à-dire des sujets internationaux, etc. Et il dit...
Plutôt que des sujets sécurité, immigration,
voilà,
identitaire,
exactement.
Que lui dénonçait.
Et en fait, il dit dans ces sujets sérieux, eh bien en fait, moi je veux imposer en gros deux visions du monde qui s'opposent. Celle d'Emmanuel Macron et la mienne. C'est un peu ce qu'il veut mettre en place dans le pays. Et puis par ailleurs, il a fait aussi cette analyse, selon lui, qui fait que l'opposition globalement, est un peu à faune depuis le début de cette guerre, parce que peut-être peu préparé sur les sujets internationaux, lui s'y prépare beaucoup. Et puis aussi, autre chose, il explique qu'en fait, il veut écraser l'opposition entre lui et Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'en gros, à un moment, il disait, alors pas aujourd'hui, mais à un moment où j'avais parlé avec lui en privé, il me disait que peut proposer Anne Hidalgo d'envoyer trois chars au lieu de deux. Quelle est sa différence avec Emmanuel Macron? Valérie Pécresse, quelle est sa différence de gestion de crise avec Emmanuel Macron? Et en fait, pour lui, du coup, alors que quand même ses opposants lui le pilonnent sur ses positions qu'il dénonce comme étant pro-russe, et que dans les médias on entend quand même beaucoup ça, qui aurait pu le desservir, eh bien en fait, avec ces sondages-là, on voit que finalement ça ne le dessert pas tant que ça, et que peut-être, et il en a reparlé, c'est cette opposition de deux mondes, peut-être qu'elle est en train un peu de se cristalliser dans la tête des gens.
Mais pourquoi, je pose la question, mais je pense que personne n'a la réponse, mais pourquoi est-ce qu'il y aurait un effet aussi net pour Éric Zemmour, dans une moindre mesure pour Marine Le Pen, un effet aussi net de la guerre en Ukraine, et il leur serait reproché, à tort ou à raison, des positions passées, parfois pro-russes, ou parfois... je pense notamment Éric Zemmour pro-Poutine et Marine Le Pen aussi. Et pourquoi est-ce que Jean-Luc Mélenchon, lui, ne pâtirait pas, ou moins, ou pas, dans les sondages, de cette situation et de ses propos passés?
Parce qu'en fait, leur discours n'est pas tout à fait le même, quand tu regardes ça dans le détail. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, si par ailleurs il a été, par son prisme effectivement anti-américain, par moments il a pu laisser penser à la population française qu'il était pro-russe, il n'a jamais en tout cas été pro-Poutine. Il le dit d'ailleurs lui-même, c'est-à-dire que moi, je suis l'un des seuls à ne jamais avoir eu de photo avec Vladimir Poutine. Par ailleurs,
Éric Zemmour non plus n'a pas de photo.
Oui, mais enfin, il dénonce Marine Le Pen, etc. Donc déjà, je pense que sur le fond du discours, il n'avait pas exactement le même discours, même si on pouvait dire qu'ils avaient tous les deux peut-être par moments des discours un peu différents. Mais par contre, Jean-Luc Mélenchon, peut-être que son discours concernant l'OTAN, notamment, le fait de sortir de l'OTAN, son discours de souveraineté, de non-aligné, ça, c'est peut-être quelque chose, finalement, qui commence à se faire entendre dans une certaine partie de la population française, qui ne semble pas forcément, par ailleurs, extrémiste. Et puis, il le dit aussi souvent, et d'ailleurs, c'est intéressant, ça, parce que dans son meeting de Lyon, ils ont diffusé, avant qu'ils prennent la parole, des vidéos, déjà en disant, voilà la position de Jean-Luc Mélenchon sur l'Ukraine. Mais surtout, il diffusait des vidéos de plein de responsables politiques de tous bords qui, ces derniers mois et ces derniers jours, globalement, disaient un peu la même chose que lui. Et notamment, il cite Dominique de Villepin, il nous l'a redit tout à l'heure, qui dit « il ne dit pas la même chose, enfin, il ne dit pas des choses différentes de moi ». Certes, il ne le disait pas de la même manière, mais peut-être que ce discours-là, non aligné, d'impérialisme américain, peut-être que finalement, ce sont des choses qui commencent un peu dans une certaine partie de la population, à s'ancrer. Il est plutôt sur la, d'ailleurs, certains de ses concurrents le taclent là-dessus, mais il parle énormément de Jean Jaurès.
Exactement.
Samedi, quand
dont je voulais te parler.
Voilà, et quand il était à Lyon avant son meeting de dimanche, il est allé déposer une gerbe de fleurs dans le 9e arrondissement de Lyon, là où a eu lieu le dernier discours de Jean Jaurès. Jean Jaurès, dont il m'a parlé longuement, qui a été assassiné avant la guerre de 1914 parce qu'il était contre la guerre, et qui, au moment où il était contre la guerre, Jean-Luc Mélenchon me le rappelait, il était traité d'acquaintance avec l'ennemi parce qu'il n'était pas patriote. Voilà. Il se met dans cette veine.
J'ai parlé ces derniers jours, depuis ce discours de Lyon de Jean-Luc Mélenchon, avec les trois candidats de droite, Valérie Pécresse, Éric Zemmour et Marine Le Pen. Et je ne vais pas citer l'un ou l'autre, mais on a plusieurs reprises évoqué justement cette position de Jean-Luc Mélenchon, évoquant le pacifisme, évoquant Jean Jaurès. Et l'un de ses candidats, je ne vais pas dire qui, mais l'un de ses candidats disait quelque chose comme, je paraphrase, mais chapeau l'artiste, parce qu'il arrive quand même à faire oublier ses positions pro-russes dans un retournement rhétorique, s'alignant en faisant référence à Jaurès, le pacifisme, inattaquable pour la gauche. Et ce ou cette candidate de droite saluait plutôt l'habileté politique de Jean-Luc Mélenchon, qui arrivait plutôt bien à se sortir de cette situation et d'une certaine manière devinait que Jean-Luc Mélenchon allait profiter de la situation dans les sondages et pouvait tirer son épingle du jeu.
Et d'ailleurs, c'est quelque chose sur lequel quand même ils insistent énormément dans son équipe et lui-même. D'ailleurs, on sent que c'est quand même un sujet qui ne lui est pas indifférent, le fait qu'il ait pu être taxé de pro-russe, pro-Poutine, etc. Quand on est arrivé à la conférence de presse tout à l'heure, il nous a été distribué un petit flyer avec dessus un QR code. Et lorsque tu mets ton téléphone sur ce QR code, eh bien en fait, tu as toutes les prises de position depuis remontées à plusieurs années de Jean-Luc Mélenchon sur la Russie.
Et en fait, donc on les pousse beaucoup sur les réseaux numériques aussi.
Voilà, et on plaisantait avec les journalistes présents en disant vous allez tracter vers Gare de l'Est parce que le QG est vers Gare de l'Est dans la rue. Mais tu vois, ils mettent très vite en place des outils très faciles d'accès pour. Donc ça prouve quand même que ce sujet-là est tout de même important pour lui, qu'il veut l'effacer, quoi.
Au-delà de la Russie, au-delà de ces derniers jours, est-ce que Jean-Luc Mélenchon peut vraiment être au second tour? Je ne te demande pas de faire une traduction, hein. Mais qu'est-ce qui manque pour qu'il soit au second tour? Est-ce que, par exemple, là, parce que c'est aussi ce sondage auquel je fais référence, sondage Elabe, c'est le premier qui ne prenait pas en compte Christiane Taubira qui a annoncé le retrait de sa candidature. Oui. Donc, d'une certaine manière, il y a un candidat de moins à gauche et il bénéficie peut-être aussi de ça. Est-ce qu'il faut, pour qu'il soit au second tour, que s'intensifie ou que se cristallise ce que Ségolène Royal avait décrit comme un vote utile et qu'au fond, il y ait un vote d'une partie de la gauche qui serait de se dire « je suis pas forcément d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, telle ou telle chose ne me plaît pas, mais c'est le seul à gauche, c'est le mieux placé à gauche et donc il faut que je vote pour lui pour défendre les valeurs de gauche face à plusieurs candidats à droite. » Est-ce que c'est ça la clé?
Le problème de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il a peu de réservoirs de voix, même au premier tour. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il s'attache plus à mobiliser les gens qui ne votent pas, les abstentionnistes des sondages, parce qu'en fait, en gros, pour être un peu parler familièrement, mais il n'a plus grand-chose à dépoiler à gauche, si tu veux, grand candidat.
Déjà, les autres sont à poil.
En fait, si tu sais, à part lui, Yannick Jadot est à 5, Anne Hidalgo est à 1,5, donc il n'y a pas en fait beaucoup de points à récupérer. C'est pas comme en 2017, où il y avait Benoît Hamon qui avait été quand même au départ assez haut, et il avait fini par grignoter les voix de Benoît Hamon. Là, les autres candidats sont si faibles que finalement, s'ils récupèrent un peu de leur voix, c'est un point, deux points.
Ce que tu veux dire, c'est que, et c'est, on en avait déjà parlé dans différents épisodes avec des différents reporters du service, c'est que la dernière fois, la barre de qualification était un peu au-dessus de 20. Cette fois-ci, la barre de qualification, elle peut être à 18, à 17, à 16, à 15. Dans ce sondage que je citais, qui est donc ce sondage Elabe, encore une fois, il faut être prudent parce qu'on est encore loin du premier tour. Dans ce sondage, la barre de qualification est à 15, puisque Marine Le Pen, deuxième, est à 15. On a vu dans le passé, c'était le cas par exemple en 2002, quand Jean-Marie Le Pen a créé la surprise en arrivant deuxième, alors qu'il était donné troisième dans les sondages avant, la barre de qualification était à 16. Je ne compare pas du tout Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui à Jean-Marie Le Pen à l'époque. Mais ce que je veux dire, c'est que quand la barre de qualification est plus basse, et à 15 plutôt qu'à 20, eh bien, c'est plus facile peut-être pour Jean-Luc Mélenchon d'arriver deuxième.
C'est ce qu'il a toujours dit de toute façon. Et le trou de souris dont il parlait, il était là aussi. C'est-à-dire qu'il faut que la barre de qualification soit basse pour qu'il puisse passer le second tour, tout simplement parce qu'en plus, il a très peu de voix de réserve. Et par ailleurs, je pense qu'il prend plus aujourd'hui. Alors, Christiane Taubira quand même a dû lui apporter un point et demi, son retrait. Mais probablement prend-il plus à des gens qui jusque-là ne seraient pas allés voter plutôt qu'à ses adversaires, parce que que peut-il prendre à Yannick Jadot? Alors peut-être le vote écolo, sur lequel il a beaucoup insisté avant l'apparition effectivement de cette guerre. Il a beaucoup insisté sur l'écologie. Il pourrait même être le vote utile à l'écologie, parce que s'il se met à être à 12-13, étant donné qu'il est il a marqué sa campagne sur l'écologie, pour les gens qui aiment l'écologie, qui sont écolos, ils peuvent le penser en vote utile.
Oui, mais quand on regarde le détail de ce sondage, et je ne suis pas obsédé par les sondages, mais c'est intéressant de regarder le détail, il y a aussi, et au premier tour et au second tour, les scores d'Emmanuel Macron s'expliquent aussi par le fait que des gens qui sont plutôt écolos ou qui, par exemple, qui auraient voté Jadot au premier tour, iraient voter Macron au second tour, parce qu'il y a, au-delà de la pure question écologique, des questions, des valeurs qui appartiennent à l'écologie politique, par exemple la question européenne, qui ferait que des électeurs de Jadot au premier tour ou des électeurs tentés par Jadot irait plutôt naturellement en deuxième choix vers Emmanuel Macron que vers Jean-Luc Mélenchon. Ouais.
Mais c'est ce qu'on disait hier, en fait, dans le podcast d'hier.
Où on parlait de Jadot et Rousseau.
Voilà, c'est qu'en fait, Yannick Jadot, lui, il a fait une campagne sérieuse, me disait encore un de ses lieutenants tout à l'heure, une campagne sérieuse pour justement crédibiliser un vote de centre-gauche, oui, en réalité, et piquer un peu des voix à Emmanuel Macron.
Et une alternative à Emmanuel Macron pour
exactement
un électorat de centre-gauche.
Et pas forcément pour faire une campagne à gauche, oui, à gauche toute. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans leur ligne politique, je ne sais pas vraiment ce que pourrait prendre Jean-Luc Mélenchon si Yannick Jadot continue à s'affaisser. Tu vois, effectivement, comme tu le dis, est-ce que ça peut être plus... Donc en fait, sa possibilité d'être au second tour aujourd'hui, c'est effectivement que
que les autres candidats à droite, que les candidats à droite soient bas.
Divise plus et que le président monte.
Pour ça, je veux pas faire de spéculation trop farfelue, mais pour ça, il a intérêt à ce que Marine Le Pen soit plutôt basse et donc qu'Éric Zemmour ne s'effondre pas. Parce que si Éric Zemmour s'effondrait à 10, à 9, à 8, là, il dégringole dans les derniers sondages. S'il était trop bas, Marine Le Pen, mécaniquement, reprendrait des couleurs.
Tout à fait.
Et donc, il n'a pas intérêt, Jean-Luc Mélenchon, à ce que Éric Zemmour soit trop bas. C'est l'un des paradoxes, mais
quand il aura c'est pas un paradoxe. Pour...
Non, mais il a plutôt intérêt à ce que les trois candidats, Pécresse, Zemmour et Le Pen, se blessent mutuellement et s'éliminent et éliminent la droite, parce que ce serait quand même un paradoxe. Et là encore, je parle de l'hypothèse où Jean-Luc Mélenchon serait au second tour. Un paradoxe assez incroyable que tous les sondages montrent, ou beaucoup de sondages montrent que la France
est à droite.
À droite, en tout cas plus à droite qu'elle ne l'était ces dernières années, peut-être plus à droite qu'elle n'a été depuis 50 ans. Et en même temps, il n'y aurait au second tour que Emmanuel Macron, qui certes gouverne avec des ministres de droite et mène peut-être, selon certains Français, une politique de droite, mais qui ne vient pas lui-même naturellement de la droite. Il est venu plutôt de la gauche. Il a voté Chevènement, il a voté François Hollande, il a travaillé avec François Hollande, voilà. Et au second tour, il affronterait Jean-Luc Mélenchon, qui lui aussi est un ancien du PS, qui est à la tête d'un mouvement qui est clairement un mouvement de gauche. Ce serait quand même un sacré paradoxe que la droite soit totalement écartée du second tour.
Tout à l'heure, c'est ce qu'il disait pendant sa conférence de presse. Il disait « si j'étais au second tour, ce serait un événement politique, en fait ». Et justement, il accusait, c'est ce que je disais tout à l'heure avant qu'on commence, qu'il accusait ses concurrents de gauche qui, effectivement, en ce moment, le pilonne, il nous disait « mais en fait, il me pilonne tellement qu'en gros, pour eux, que ce soit Éric Zemmour ou Marine Le Pen au second tour face à Emmanuel Macron, c'est pareil que si c'est moi ». C'est aussi grave que si c'est moi. Et alors, tu vois, ça, c'est aussi une question, sans doute, parce que c'est l'hégémonie de la gauche. Les équilibres sont tellement en train de se renverser avant, sans doute, une reconstruction. Mais le pilonnage de Jean-Luc Mélenchon, en ce moment, par notamment Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo,
ils ne vont pas non plus rentrer chez eux en disant « bon, c'est bon, j'abandonne, votez Mélenchon ». Chacun mène une campagne pour défendre ses idées, ses valeurs, sa stratégie et son parti.
Mais pourtant, aujourd'hui, il est devenu quasiment l'adversaire numéro un. Alors, tu vois, mais effectivement, on entend moins parler de l'extrême droite, on entend moins parler. Autant Valérie Pécresse continue à pilonner le président de la République. Bon, on voit peut-être... C'est peut-être pas trop porteur, tu vas me dire, mais les autres adversaires de gauche, de Jean-Luc Mélenchon, ils ont lâché le président de la République quasiment, même Jadot, qui était très sur cette ligne, et c'est Jean-Luc Mélenchon qui est l'homme à abattre, si je puis dire.
Dans les prochaines semaines, ce qui reste, parce qu'il reste 2 semaines et demie de campagne, en gros, enfin, un peu plus, parce que il y a une trentaine de jours maintenant avant le premier tour, mais il n'y a plus que 2 semaines et demie avant l'égalité exacte du temps de parole où on va mécaniquement moins entendre les plus gros candidats, notamment Jean-Luc Mélenchon. Donc y a peu de moments de campagne qui pourront avoir un écho national. Et pour lui, le rendez-vous très très important, c'est le 20 mars à Paris. C'est une marche suivie d'un discours. À quoi ça va ressembler ?
Déjà, il faut que ce soit énorme pour eux. C'est-à-dire que c'est une marche qui va aller de Bastille jusqu'à République. Donc c'est une
deux lieux symboliques de la gauche.
Voilà. C'est une marche pour la 6e République. Et en fait, c'est vraiment le moment phare dont ils nous parlent depuis le début de la campagne.
Ouais.
Voilà. Et donc, vraiment, c'est un pari pour eux. Alors, globalement, Jean-Luc Mélenchon, il fait du monde. Lyon, dimanche dernier, nous annonçait 15 000 personnes.
À la Croix-Rousse.
Voilà, à la Croix-Rousse. Ouais. Là où avait
là
fait
aussi,
sa déclaration.
Légende ouvrière, les Canuts, 1834.
Alors maintenant, c'est plus du tout les ouvriers qui habitent à la Croix-Rousse. Hein, pour y avoir vécu, je peux te dire que c'est très cher. mais par ailleurs, donc il a pas de mal à, en tout cas, à remplir. Mais il faut effectivement que ce soit une démonstration de force, comme il le dit souvent. Cette marche du 20 mars, en fait, il ne peut pas louper la marche, parce que le dire, parce qu'en fait, c'est vraiment l'élément central de sa campagne. Il nous le dit depuis, il nous en parle ses équipes depuis des mois. Donc il va y avoir cette grosse marche.
Donc quand on dit une marche, c'est pas une manifestation syndicale, mais ça ressemblera à un cortège qui partira de Bastille République, qui est un tracé assez classique de marche de gauche.
Ouais. Et après, il ferait donc un discours place de la République. Ouais. Et puis, il ressortirait ses hologrammes pour le 5 avril.
Ça, c'est autre chose. C'est que dans la période d'égalité du temps de parole. Voilà,
Oui, ben ça, ce sera pas pour les médias.
Non, mais
ça
veut dire que les chaînes de télévision auront beaucoup plus de difficultés. Et on se reposera la question à ce moment-là. Mais on n'est pas certain, il n'est pas certain que ces rassemblements, ces moments de campagne si proches du premier tour puissent être diffusés en raison de règles du temps de parole dont on parlera dans un prochain épisode parce que c'est vraiment compliqué. Mais le 20 mars, ça va vraiment être un moment important pour lui. S'il veut accéder
Ce sera un moment. Je pense que peut-être là, on saura s'il y a une vraie possibilité de second tour ou pas. Ou en tout cas, si la dynamique continue à prendre. Bon, on en reparlera d'ici là.
Tu nous raconteras ça.
Je vous raconterai. J'espère qu'il fera beau, tant qu'à faire.
Oui. Ah ben, s'il pleut, ça sera. Non, c'est marrant les discours sous la pluie, non?
Ça rappellera François Hollande, peut-être. Ce sera peut-être pas.
Il a été élu.
C'est vrai.
Exactement.
C'est vrai, mais tant qu'on prend pas la foudre.
Bonne soirée.
Bonne soirée, Philippe, à bientôt.
Merci d'avoir suivi cet épisode. À demain.